C'est tout drôle, on dirait presque que j'ai un soleil dans la poitrine. Cette très jolie phrase est tirée du livre « On tatouera notre jeunesse dans la neige » qui a été publié en 2021 par la talentueuse autrice M. Lou, de son vrai prénom Marie-Lou Courriveau. Cette phrase est prononcée par Iba, l'un des personnages du livre, et témoigne de la poésie de celui-ci et de sa douceur. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir M. Lou avec nous pour lui poser toutes nos questions. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurices. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de discussion avec de jeunes artistes, cette fois-ci en présence d'une jeune écrivaine de 21 ans, dont la créativité semble sans limite et qui écrit des romans tout doux et tout réconfortants, le tout dans un langage inclusif. Merci beaucoup Marie-Lou d'être avec nous aujourd'hui.
Bah bonjour Lucie, merci de m'avoir sur le podcast, c'est trop sympa.
Bah c'est trop sympa à toi d'être venue. Donc tu es autrice et auto-entrepreneuse et tu as fait paraître ton premier livre « On tatouera notre jeunesse dans la neige » en 2021 en auto-édition et tu gères désormais ta propre entreprise, donc ça pose vraiment beaucoup de questions. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement ton livre pour nos auditeuristes qui peut-être ne le connaissent pas ?
Alors « On tatouera notre jeunesse dans la neige », c'est un roman contemporain qui s'adresse à un public jeune. Alors, idéalement, dans la tranche d'âge 16-20 ans, tu vois, du début des études, de l'entrée dans la vie étudiante, ou en tout cas de l'après-lycée. Mais, bon, clairement, il s'adresse à tout public aussi, donc il n'y a pas de limite d'âge par rapport à la lecture. C'est l'histoire de 6 amis, dont les parcours ont été... qui ont été séparés par leurs études et par leurs parcours respectifs, et qui vont profiter d'une semaine de vacances à Noël pour se retrouver. Ils se retrouvent donc dans un chalet à la montagne pour une semaine de douceur et de retrouvailles, de réconfort, de soutien dans cette période qui est quand même pleine de doutes et d'appréhension que celui du début des études pour les personnes qui font des études parmi les personnages. Voilà, donc c'est vraiment une ode à l'amitié, au soutien entre les amis et au réconfort qu'on peut trouver dans le partage de son vécu avec d'autres. Et puis bien sûr, comme c'est dans un environnement de neige et de montagne, il y a des descentes de ski, des repas avec beaucoup de fromage et voilà, donc ça se passe dans le petit village pittoresque de Pralognan-la-Vanoise, en Tarentaise, donc en Savoie, voilà.
Toi, tu viens toi-même de Savoie, donc en fait, c'est un village que tu connais.
Oui, c'est ça. J'ai grandi en Savoie, entre Aix-les-Bains et Chambéry, mais j'ai passé toutes mes vacances au ski, enfin, je suis très régulièrement en station, et donc j'avais passé plusieurs fois... des vacances dans cette station-là, et c'est une station que j'aime beaucoup, et je me suis dit que pour l'atmosphère que je voulais pour ce roman, ça s'y prêtait vraiment très bien, parce que ça a vraiment une ambiance de petit village qui a gardé tout son charme, et en même temps qui est une station de ski plutôt familiale, et donc ça se prêtait bien à l'ambiance du roman, voilà.
J'en profite vu qu'on parle de toi et de tes romans, d'où est-ce que ça te vient ce pseudo M. Lou ?
Alors M. Lou, je l'ai pris de mon prénom, donc Marie-Lou. Parce que quand je cherchais mon nom d'autrice, je ne me voyais pas utiliser mon nom civil entier. Enfin, je trouvais que ça ne faisait pas trop nom d'autrice. Et du coup, je cherchais quelque chose. Alors, j'étais pas contre le fait d'utiliser mon prénom. Mais finalement, c'est ma mère, je crois, qui m'a suggéré d'utiliser le M de mon prénom et plus loin de mettre Lou, tu vois, M. Lou. Et puis moi, dans ma tête, j'aimais pas trop esthétiquement ce que ça donnait, mais j'aimais beaucoup la sonorité. Et je me suis dit, si on écrivait « aime » comme le verbe « aimer », surtout que finalement, ça s'accorde très bien avec l'atmosphère que je veux faire transmettre à travers mes livres. Donc c'est devenu « M. Lou ». Au début, je pensais l'écrire en deux mots. Puis finalement, je me suis dit qu'en un seul mot, ça marchait bien. Et voilà, ça s'est construit comme ça. Donc c'est une dérivation de mon prénom. Qui permet de faire encore plus transmettre la douceur et la bienveillance que je prône dans mes livres.
C'est très stylé comme pseudo, je trouve. Du coup, comment t'as décidé finalement de sauter le pas entre écrire de ton côté et publier ton premier livre?
Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteuristes qui ont du mal, enfin qui ont du mal, pour qui c'est pas évident de passer de l'un à l'autre parce que c'est finalement deux exercices très différents quand même, d'écrire pour soi versus partager ses écrits à un public large. Et moi, du coup, j'ai eu un peu un tremplin pour ça, on va dire, c'est que j'ai commencé à partager mes écrits sur Wattpad, donc une plateforme en ligne de partage d'écriture, assez tôt dans le début de l'écriture parce que j'ai commencé à écrire, on va dire, pour de vrai. Je mets des guillemets dans le sens de commencer à vraiment écrire des histoires qui tiennent la route de A à Z quand j'étais au collège, vers la quatrième. Et j'ai commencé à poster sur Wattpad en troisième. Et en fait, ce qui était génial, c'est que, bon, bah déjà au début, comme on n'est pas connu, ça va, on n'a pas, notre texte n'est pas jeté entre les mains de 10 000 lectrices, donc c'est plutôt confidentiel, donc c'est appréciable. Et puis ça permet surtout l'échange avec des lectrices qui vont permettre d'enrichir le texte, d'enrichir sa manière d'écrire, de remettre en question certaines choses, de progresser en fait, tout simplement. Donc moi, ça m'a beaucoup. Je pense que ça m'a vraiment. Enfin, ça a totalement influencé mon écriture et ça a aidé à mon style de prendre forme et surtout bah donc ça a commencé à me mettre un pied dans le partage de mes écrits avec d'autres personnes parce qu'on va dire que dans la vraie vie, enfin en tout cas la vie physique, il y avait peu de personnes qui lisaient mes écrits. Je me cachais pas d'écrire du tout parce que c'est une passion que j'avais, voilà. Mais je le faisais pas spécialement lire. Alors, il y a peut-être quelques amis qui l'ont lu, mais qui ont lu ce que j'écrivais à différents moments, mais voilà, jamais trop non plus. Donc c'était vraiment sur Internet, sur cette plateforme-là que j'ai commencé à partager et que ça m'a et que du coup ça me paraissait pas un trop grand pas de passer du partage en ligne à un partage papier en fait. C'était juste, enfin pour moi c'était un peu l'étape d'après d'une suite logique en fait.
Et du coup, tu trouves que Wattpad, c'est vraiment, y a vraiment eu plein de critiques constructives, quoi. Enfin, ça.
Oui, en fait, j'ai eu de la chance quand même au début de tomber sur les premiers lectoristes que j'ai eus qui ont eu des remarques hyper pertinentes et constructives pour me permettre de m'interroger sur ce que j'écrivais, sur des pistes de où aller dans la suite, etc. Puis de me faire des remarques plus après sur le style ou même carrément des corrections orthographiques et de grammaire, etc. Donc vraiment des. Et puis petit à petit, voilà, je pense que mon. C'est ce qui a permis à mon écriture de mûrir assez rapidement quand même, ou en tout cas de manière constante et pendant mes années collège et lycée. Et ouais, c'est ça, ouais, j'ai eu des retours vraiment constructifs.
C'est super. Tu parlais de faire paraître un livre en version papier. Et donc dans ton cas, tu as fait ça en auto-édition. Et on a l'impression du coup, bah, avec le préfixe auto, etc., que c'est quelque chose d'assez solitaire. Et pourtant, je crois que tu t'es entourée donc d'une éditrice qui est Miralta Edito sur Insta, de correctoreuses, de lectoreuses, d'une graphiste, d'une chef cuistot pour les recherches, pour les recettes. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de monde en fait derrière ton livre. Et
Totalement.
voilà, quel sentiment en fait toi t'as eu là-dessus?
C'est une très bonne question parce que c'est vrai que le terme auto-édition prête un peu à confusion parce que l'écriture, l'acte d'écrire en lui-même est solitaire, mais c'est vrai qu'après, un livre, quand il paraît, il y a toute une équipe qui est passée dessus, derrière, et qui a travaillé dessus. C'est pour ça que parfois, je préfère parler d'édition indépendante. Parce qu'en fait, l'auto-édition a un peu une connotation assez péjorative chez pas mal de personnes, alors que bon, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais donc du coup, parfois j'utilise le mot d'édition indépendante parce que c'est la même chose finalement. Et donc oui, j'ai fait appel au service d'une éditrice indépendante, Marion de Miralta Edito, qui est basée à Toulouse et qui a pris les aspects de correction, de maquettage, puis d'accompagnement dans la fabrication du livre. J'ai aussi fait appel donc à une graphiste pour l'illustration de la couverture du livre. Et puis, c'est ça, dans le livre, en fait, je l'ai construit d'une manière un peu particulière. Enfin, entre chaque chapitre, j'ai un éclat, qui est donc une sorte de mini-chapitre, où je puis mettre des choses un peu des. d'autres supports de texte. Donc, il y a des passages en SMS, il y a des passages qui sont des recettes de cuisine, justement, et puis parfois d'autres petites choses, petites surprises en fait, qui se glissent entre chaque chapitre. Et donc, pour les recettes de cuisine, c'est une amie qui est chef qui m'a concocté des recettes spécialement pour le livre, pour aller un peu avec cette ambiance réconfortante, hivernale, cocooning, voilà, pour mettre l'eau à la bouche des personnes qui le lisent. Non, à la base, c'était même pas pour donner envie, c'était plutôt parce que comme j'ai écrit ce livre pendant ma première année d'études, c'était aussi la première année où je devais prendre en charge tous mes repas. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, moi qui n'étais pas du tout... Pour le coup, j'adore écrire, mais cuisiner, c'est une autre histoire. Et du coup, je me disais, bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient besoin d'avoir un peu d'inspiration de recettes, en fait, tout simplement. Donc, je me suis dit, bah, c'est un livre qui parle de cette période-là, ça fait sens pour moi, c'est cohérent de venir mettre des recettes dedans, et c'est pour ça que j'ai choisi d'en mettre, voilà, vraiment, tout simplement.
C'est très pratique comme point de vue.
Oui, non, totalement. En fait, plus je parle de ce livre, et plus je me rends compte que j'ai un peu écrit mon guide de survie à l'entrée dans les études, en fait, avec tout ce dont j'aurais besoin dedans pour survivre sans trop de casse au début des études, quoi.
Bah c'est cool si tu le partages du coup à tout le monde. Tu l'as fait, tu dis toi-même du coup t'étais en hippocagne, donc t'étais jeune, en plus je pense que t'avais plein de choses à gérer dans plein de domaines. Et est-ce que tu penses que tout le monde pourrait se lancer dans l'auto enfin ou dans l'édition indépendante avec son livre justement? Quel conseil du coup t'aurais à donner à des autoristes qui voudraient voir leur livre publié finalement?
Alors j'ai plusieurs réponses à cette question parce qu'en fait, à la fois, oui, l'édition indépendante est vraiment ouverte à tous et toutes dans le sens où il n'y a pas de limite à s'éditer soi-même, d'autant qu'il existe vraiment plein de façons différentes de s'éditer qui font qu'il y en a pour tous les budgets en fait. Et on peut vraiment s'éditer pour vraiment trois fois rien. Il y a quand même le dépôt du livre à la BNF qui coûte un petit peu, puis les ISBN par exemple, mais ça revient à moins de 100 euros, donc si on n'a que ça comme budget à mettre, c'est possible par exemple. Mais, et puis ça peut monter à moi, comme moi par exemple, à plusieurs milliers d'euros, parce que c'est plein de prestations après professionnelles qu'on peut prendre pour sortir un objet qualitatif en fonction des besoins et du projet qu'on a. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les budgets, tous les goûts aussi dans les façons de faire, parce qu'on peut choisir de s'éditer en numérique, par exemple avec Amazon KDP, ou alors on peut choisir du papier, comme moi, pour l'instant le livre est exclusivement en papier. Et puis même pour le papier, il y a les sites d'impression à la demande qui font que le livre est imprimé seulement à chaque fois qu'il est commandé, donc ça permet de ne pas avoir de gestion de stock et de ne pas avoir de frais à avancer avant la sortie du livre. Et puis il y a l'impression plus traditionnelle, que moi j'ai choisi par exemple, qui fait d'imprimer un stock d'un coup et puis ensuite d'écouler le stock par différents moyens en fonction de la diffusion et de la distribution qu'on est capable de donner, de créer. Donc voilà, je dirais que par rapport à ça, c'est ouvert à toutes et tous. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un certain type de profil. Je pense qu'il y a des auteuristes qui seraient beaucoup plus à l'aise en maison d'édition. Qui préfèrent vraiment ce modèle-là, et puis d'autres pour qui c'est généralement les personnes qui sont un peu plus touche-à-tout et qui préfèrent avoir plus de prise de décision et par rapport à leur projet, qui se tournent plus vers l'auto-édition et pour qui c'est plus intéressant, effectivement. Mais parce qu'après, il y a des personnes pour qui ça peut être très anxiogène, en fait, d'être en auto-édition, parce qu'effectivement, tout le livre repose sur une seule personne, sur en plus la personne qui l'a écrit, donc c'est vrai que ça peut être inconfortable pour les personnes pour qui c'est pas la meilleure option. Donc voilà, je voudrais pas dire en mode c'est pour tout le monde, mais en tout cas il n'y a pas de limite techniquement. Bah voilà, il n'y a personne qui va dire ah bah non, tu vas pas éditer ton livre parce qu'il n'est pas assez bon, si tu veux le faire éditer tu peux, quoi.
Ok, je savais pas du tout qu'il y avait autant de moyens d'auto-éditer son livre.
Ouais, en fait c'est super varié, c'est
Et parce que du coup, je pense que c'est aussi une question qui se pose quand on voit quelqu'un qui s'auto-édite. C'est est-ce que ça vient aussi de la volonté de s'éditer malgré par exemple une saturation dans les maisons d'édition? Ou est-ce que c'est, comme tu l'as dit, peut-être pour peut-être avoir plus de liberté de prise de décision là-dessus, je sais pas si ça te parle visiblement.
Oui, bah oui, parce que c'est vrai que le marché du livre, c'est un marché saturé. Déjà, il y a beaucoup plus, enfin, il y a énormément de livres qui sortent chaque année et on dit que c'est un marché en surproduction, clairement. Enfin, il y a des. 100, enfin, je ne connais pas les chiffres, mais le nombre de livres qui part au pilon chaque année est énorme, donc de livres qui sont détruits parce qu'ils ne sont pas vendus. Donc c'est vrai que c'est assez effrayant de ce point de vue-là. Et du coup, c'est sûr que trouver une place en maison d'édition, c'est difficile, et pas simplement à cause de la qualité d'un texte, mais juste par rapport au nombre de livres que les maisons d'édition peuvent se permettre d'éditer chaque année, et en fonction de leur catalogue, etc. Donc c'est vraiment pas qu'une question de qualité. Et c'est vrai que du coup, ça peut être un peu un repoussoir. Moi, ça l'a été dans le sens où je voulais que le livre sorte pas trop longtemps après l'avoir écrit. Parce que j'avais, enfin, comme ce livre, je l'ai vraiment vu comme une photo un peu de cette période de vie que j'ai vécue. J'avais pas envie de mettre trop de temps entre le moment où je l'ai écrit et vécu et le moment où il est édité pour éviter que mon point de vue soit un peu détérioré ou dénaturé par le temps qui serait passé. Et du coup, de fait, l'envoyer en maison d'édition, c'est accepter d'avoir des délais de plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'avoir une réponse et une réponse positive. Et donc, c'était juste quelque chose que je ne me voyais pas faire pour ce projet-là, parce que s'il devait sortir, il fallait qu'il sorte rapidement après l'écriture, en fait.
Ok, bah c'est vrai que c'est cohérent et juste j'en profite pour dire que du coup par rapport à cette histoire de qualité des livres et que il y a des livres très bons qui sont pas édités juste parce qu'en effet c'est saturé, il y a des dizaines et des dizaines de livres qu'on voit, enfin de manuscrits qu'on lit et qu'on se dit bah vraiment c'est excellent hein, mais il y a juste voilà il y a pas de place quoi donc non désolé et c'est horrible et du coup je trouve que l'alternative de l'auto-édition en fait c'est pas mal. Bon alors ça a l'air d'être beaucoup de travail mais c'est pas mal.
Ouais. C'est ça, en fait, après il faut trouver, c'est toujours pareil, il faut trouver l'alternative qui nous correspond, parce que comme on l'a vu, du coup, il y a plein de façons différentes de s'auto-éditer, et donc on peut avoir plus ou moins une grosse charge de travail en fonction de ce qu'on choisit de faire, notamment si on choisit de faire tout soi-même, par exemple, parce qu'on aurait des compétences en graphisme et des compétences en maquettage, etc., et ben on va pouvoir faire beaucoup de choses soi-même, mais si on n'a pas toutes ces compétences, et c'était mon cas par exemple, ben, on va s'entourer d'une équipe compétente. À sa place, et ça devient un peu moins de travail. Bon, c'est toujours beaucoup de travail, mais ça devient un peu moins de travail que si on prend tout à sa charge.
C'était la première partie de cet épisode de Jeunes Artistes avec Mblou. J'espère qu'il vous aura plu. Dans la deuxième partie, on y parlera ensemble moins d'auto-édition et plus de littérature queer, d'écriture inclusive et de la nécessité de ralentir et de s'octroyer des pauses dans notre quotidien surchargé. À bientôt pour la suite sur Jeunes Artistes.